les moments musicaux de l'Académie Clémentine. Une émission qui a pour vocation de vous faire partager les concerts qui ont été enregistrés en l'église Saint-Georges de Cannes. Aujourd'hui, nous évoquons le concert du 25 octobre 2008, donné par les solistes de Cannes, et dont la pièce majeure était le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, comme lors de notre précédente émission, d'accueillir trois des membres de ce quatuor. Bertil Dufour, bonjour Bertil.
Bonjour.
Philippe Cochever, bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Alain Danguin, à la clarinette. Mais il est venu sans son instrument.
Oui.
Ou il ne va pas nous en jouer un morceau.
Non,
c'est pas prévu.
Elle est dans la voiture, hein, si il y a besoin.
Alors, il nous manque Marika Hofmeyer, la pianiste, qui est retenue par la préparation d'un grand concert avec Olivier Charlier. Et c'est pour ça que j'avais hésité à vous dire d'apporter vos instruments, parce que je ne voyais pas comment faire rentrer Marika.
Et son piano
son
à queue.
Piano.
Et son piano à queue.
Marika, je pense qu'elle aurait passé la porte, il n'y avait pas de problème.
Voilà. Donc, nous avons, lors de la précédente émission, décrit un peu les caractéristiques de cette pièce exceptionnelle, qui est un des grands moments de la musique du XXe siècle, Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Alors, c'est une pièce qui a été composée dans un camp en Allemagne. Au début, à Nancy, Messiaen était prisonnier de guerre, il était soldat. Et il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers d'abord à Nancy, où il a composé une première pièce, et puis ensuite il s'est retrouvé à Görlitz.
Görlitz, en Silésie.
Voilà.
Exactement.
Oui. Et là, il retrouve des musiciens.
Il y a trois compagnons de malheur, si on peut dire. Donc Jean Boulaire au violon, Henri Acocca à clarinette, et Étienne Pasquier au violoncelle. Et il avait anticipé une composition qui s'appelle Intermède, enfin qu'il appelait Intermède après, à Nancy. Il avait écrit cette pièce, et puis le quatuor de la fin du temps est né à partir du moment où ils se sont retrouvés tous les quatre en Allemagne, parce que les Allemands, au niveau culturel, sont toujours très forts, et quand ils se sont rendus compte que Olivier Messiaen, visiblement, était un brillant compositeur, ils lui ont fourni tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse continuer à écrire.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment dans un camp de prisonniers, la soldatesque, peut-être pas les capacités nécessaires pour juger des qualités musicales d'un compositeur qui se trouve en guenille. Comment ont-ils reconnu les qualités de Messiaen?
C'est peut-être comme quoi, il y a peut-être une culture musicale plus importante.
Peut-être il y avait un musicien.
Tout le monde, que ce soit le commandant du camp, il a tout de suite donné l'ordre de qu'il ait un piano, qu'il ait du papier à musique, parce qu'il est arrivé dans le camp sans papier à musique, c'est évident, crayon et gomme, il faut le minimum pour un compositeur. Et il a toujours pu faire ce qu'il voulait, enfin relativement, attention, c'est quand même un camp de travail, il a pu relativement faire ce qu'il voulait, il y avait une salle où il pouvait répéter, enfin bon, tant mieux pour l'œuvre.
Voilà, je me souviens d'un film que j'ai vu qui s'appelait L'affaire Furtwängler, où c'est un officier américain qui vient essayer de purger les collaborationnistes du régime nazi et qui s'interroge sur Furtwängler. Et à un moment, cet américain qui n'est pas plus musicalement cultivé que ça, s'en étonne. Hein. Je m'étonne de cette relation de ce peuple à la musique.
Exact. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a un film aussi qui est sorti, Le Pianiste. C'est pareil. C'est un Allemand qui sauve ce pianiste, qui a fait d'ailleurs une carrière internationale de toute sa vie. Hein. C'est lui qui va le sauver et qui voit le talent qu'il a. Parce que il y a des personnages comme ça qui dégagent une aura. Et bon, c'est ce qui les a sauvés.
Quelque part, c'est mon professeur. Donc, quand j'étais petite, j'ai le souvenir de ça, m'avait toujours dit, puisqu'elle avait vécu la guerre, c'était une dame d'un certain âge, que par exemple, il lit la Skine. Avait été nommé Ariane d'honneur, quelque chose d'incroyable.
Ariane d'honneur, ça, j'avais jamais entendu parler de cette.
Alors, moi, j'ai le souvenir qu'on m'a dit ça. Est-ce que c'était vrai? Enfin, en tout cas, elle était donc à cause du. Oui, il s'est toujours passé quelque chose avec la musique qui était un petit peu en marge, un peu à part.
Mmh. Alors que les peintres abstraits étaient considérés comme décadents. Et,
absolument. Absolument.
Mais Picasso était reconnu pendant la guerre. Et quand les officiers venaient lui rendre visite, parce que c'était déjà, il était reconnu comme génie. Les gens venaient avec des photos de Guernica et ils disaient, mais c'est vous qui avez fait ça, maître ? Il dit, non, non, c'est vous qui avez fait ça.
L'anecdote est jolie. Eh bien, nous revenons au Quatuor pour la fin du temps. Donc la semaine dernière, nous avons entendu les cinq premiers morceaux. Oui. Voilà. Alors, les deux premiers, Liturgie de Cristal et la vocalise, c'est déroutant parce que...
Ça nous met dans le contexte.
Ça met dans le contexte.
Ça met dans le contexte, je pense. Ça installe une ambiance. Il y a une démarche harmonique avec ce jeu d'harmonique justement dans le premier mouvement, la clarinette, les oiseaux. Enfin, on s'installe. Le décor est planté.
Voilà. Et donc la troisième pièce, c'est là le moment de bravoure de la clarinette.
Pas d'Alain Anguin de la clarinette en général.
Oui, c'est un morceau d'une grande élévation qui voilà, on n'entend plus une mouche voler dans l'église, mmh. Personne ne mange de bonbons.
On l'espère, sinon c'est qu'on a loupé son effet, mais on ne peut pas louper son effet, parce que Messiaen, lui, il l'a pas loupé. Alors donc, même si on le joue
de
façon moyenne, le miracle marche.
Alors après, il y a un intermède bref, qui est un peu une respiration, après ce grand moment d'émotion.
C'est le bol d'air.
C'est un petit bol d'air. Et on repasse au violoncelle avec vous, Philippe Cochefer, pour une longue louange à l'éternité de Jésus qui est à nouveau...
Qui est une page sublime du répertoire du violoncelle et que tout violoncelliste doit jouer une fois dans sa vie, ça c'est clair.
Alors pour ceux qui auraient raté cette première émission, je suis certain que la station la rediffusera et que donc il suffira d'écouter la programmation de José pour avoir les séances de rattrapage. Alors maintenant on va passer aux trois dernières pièces. La première c'est une danse de la fureur pour les sept trompettes. Alors c'est les sept trompettes évidemment de l'Apocalypse.
Complètement, complètement. Et c'est une pièce qui est brillante, hein. On va voir tout de suite le contexte. C'est la première pièce vraiment brillante du Quatuor pour la fin du temps. Très difficile rythmiquement. On joue à l'unisson. Donc c'est jamais facile, quatre instruments comme ça à l'unisson. Il y a toujours un rythme qui s'ajoute. On est toujours en décalage. C'est une pièce qui reste un sommet d'écriture. C'est vraiment le summum, même, je dirais.
Bien écoutez, le mieux, plutôt que d'en parler, c'est de l'écouter et on commentera éventuellement après. Alors donc, sixième pièce du Quatuor pour la fin du temps, la danse de la fureur pour les sept trompettes.
Thank you.
danse de la fureur pour les sept trompettes. Alors, les sept trompettes de l'Apocalypse. Et il faut rappeler aussi que ce quatuor pour la fin du temps, il y a huit mouvements, alors qu'il est une rupture avec le nombre de sept, qui est le chiffre sacré.
Oui, puisque après les sept mouvements, Messiaen a voulu faire un huitième pour éclairer son œuvre. Voilà. Voilà.
C'était l'idée, c'était de dépasser le chiffre.
Voilà, et c'était l'éternité
de Jésus.
Exactement.
Ben, on va bientôt y arriver. Alors, le mouvement suivant, c'est un fouillis d'arc-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps. Alors, l'arc-en-ciel, il faut rappeler le lien de Messiaen avec la couleur, non ?
Ah oui, bien sûr, puisque Messiaen avait une particularité, on le disait dans la dernière émission, puisqu'il a... Chaque son correspondait à une couleur précise, et chaque couleur donc à un son. Et il est à noter quand il était donc très croyant, très pratiquant, mais dès son plus jeune âge, il avait été frappé en rentrant donc à Notre-Dame par les vitraux et les couleurs, de voir toutes ces couleurs avec les personnages, et je pense que ça avait déjà impressionné, il devait avoir déjà, puisque c'est une maladie, si on peut dire, une particularité plutôt.
La synesthésie.
Une chance, oui.
Moi, je trouve que c'est une chance.
C'est une chance, oui.
La synesthésie.
Oui, ça doit faire voir la vie en rose.
Oui, mais je trouve que c'est pas mal, entendre un son et voir une couleur. À mon avis, la démarche, tellement différent de nous. En
fait. C'est un peu rimbaldien, non ?
Oui.
Un noir et blanc et rouge.
Et d'ailleurs, des assemblages intéressants. Hein.
Très bien. Alors, fouillis d'arc-en-ciel pour l'ange, qui annonce la fin du temps, c'est une pièce qui a quel caractère ?
Je crois qui amène doucement. On vient d'écouter donc une pièce, on disait tout à l'heure, qui a l'unisson, peut-être pour renforcer cette fureur. On est à quatre, finalement, à dire la même chose et à le répéter vraiment fortement. Et ce fouillis d'arc-en-ciel commence à nous préparer à la dernière pièce, donc, qui va être l'immortalité de Jésus, quelque chose qui est complètement intemporel. Et donc, ça nous prépare. Je pense que c'est une préparation à cette fin qui n'en est pas une, puisqu'elle est ouverte sur tout.
Alors, fouillis d'arc-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps.
Thank you.
Alors cet immense fouillis d'arc-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps est un prélude à la conclusion qui nous allons écouter tout à l'heure. Mais pendant le hors micro, Alain Danguin, vous évoquiez une écriture proche de Debussy.
Oui, j'ai l'impression que c'est une musique qui est très, très liée à l'écriture pianistique et surtout, c'est allusion à la, toujours, il y a toujours une différence dans la pièce qui précédait, Messiaen avait indiqué granitique et là on se retrouve dans un fouillis d'arc-en-ciel, vous voyez, on passe toujours de quelque chose d'extrêmement réel et après spirituel, enfin, à mon avis, comme ça, sans avoir étudié la pièce plus que ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours ces oppositions qui font que effectivement, on est. Alors chez Debussy, là, évidemment, ça c'est pas moi qui puisse vraiment expliquer. C'est plus ce que je ressens dans ce type d'écriture. Maintenant, voilà, c'est juste un avis.
Alors, pour mémoire, on avait aussi programmé Messiaen parce que c'était le 100e anniversaire de sa naissance.
Hein, voilà.
Il était né en Avignon le 10 décembre 1908.
Exactement. Hein.
Et il était fils d'un professeur d'anglais et d'une poétesse célèbre.
Voilà, très connu à l'époque. Hein. Son père, prof d'anglais, avait traduit Shakespeare, alors c'est pas rien quand même. Et sa mère, Cécile Sauvage, était une poétesse très importante au XXe siècle.
Alors très, très jeune, il rentre au conservatoire.
Il connaît déjà des opéras de Mozart à 6-7 ans par cœur. Enfin bon, on voit très bien qu'il est doué. Il baigne dans un milieu artistique important. Bertine nous racontait tout à l'heure le choc quand il est rentré à Notre-Dame avec les vitraux, la lumière. Enfin, c'est quelqu'un d'hors du commun.
Et alors, au conservatoire, il suit notamment la classe d'orgue de Marcel Dupré, mais il suit 5 classes et il obtient 5...
5 premiers prix, sauf celui d'harmonie, curieusement, quand on voit ce qu'il a composé. Et puis pareil, il n'aura pas le Grand Prix de Rome aussi. Bon, ça reste curieux. C'est les erreurs des concours, ça, j'imagine. Hein. Je crois que Ravel, c'était pareil. Du reste, il n'a jamais eu le Grand Prix de Rome. Et c'est peut-être justement ce qui fait leur génie maintenant.
Oui, bah on peut dire que tous ceux qui sont un peu précurseurs peut-être peuvent passer à côté du.
Exactement aussi.
Parce que nécessairement, si on est juge dans un jury, on est un peu enfermé dans un cadre classique.
Voilà, et à l'époque, j'imagine que
l'académisme devait faire fureur, surtout. Hein,
voilà, alors on devait dire, oula, celui-là, il faut l'écraser.
Pas trop d'innovation. On arrive à la fin de ce quatuor pour la fin du temps. Avec, je dois vous remercier, Philippe, d'avoir si bien présenté l'atmosphère de ce concert, enfin de création de ce concert qui a vraiment mis le public dans l'ambiance. Et après ce fouillis qu'on vient d'entendre, tout d'un coup, il y a une grande plage d'élévation.
Et oui, une autre page magnifique pour le violon que Bertil va nous parler, parce que ça, c'est vraiment, je pense que quand on joue ça, c'est un peu comme moi quand je fais la pièce au violoncelle, il y a une telle intensité, on ne peut pas être insensible à ce genre de musique.
Alors, est-ce que c'est une pièce qui est très dure à jouer? Je ne suis pas musicien, donc techniquement, est-ce que ça pose des problèmes particuliers, cette fin?
Oui, parce que c'est quelque chose de... Il a demandé quelque chose de le plus lent possible. Donc au niveau de l'archer, ça demande une tenue. Après toute cette fureur, on s'est beaucoup dépensé physiquement. On a besoin d'une grande sérénité et d'avoir un archer comme s'il faisait 2 kilomètres de long. On ne doit plus entendre le temps, justement. On en revient à ce que disait Alain la dernière fois par rapport à l'abîme des oiseaux. À part que là, c'est vraiment... On essaye de, comme si on planait, on voulait partir hors du temps dans cette pièce. Donc il y a le piano qui donne des accords, qui ressembleraient, je ne sais même plus si c'est des battements de cœur, ce n'est plus palpable, c'est comme des cloches. Et quand on s'arrête, on a l'impression que cette musique pourrait continuer éternellement, qu'on pourrait aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est même plus la fin du temps, il n'y a plus de temps, donc il n'y a plus de fin. Et pour rendre cet effet, c'est ça qui est très difficile, qui est plus rien de palpable. C'est-à-dire que c'est des sons qui s'envolent jusqu'à l'infini. Et ça, c'est très difficile à rendre.
Ben écoutez, apparemment, ça a été très bien rendu parce que de souvenir, l'émotion était très grande. À la fin de ce concert, je pense que l'émotion physique. Hein. Et je pense que les applaudissements ont...
mérité, mais il se passe toujours quelque chose de magique quand ça se passe bien. C'est que Bertil termine cette pièce et tout reste suspendu. Les gens n'osent même pas applaudir. Il reste un moment comme ça. Et là, je crois que c'est magique, quoi. Et puis bon, c'est
comme
la fin.
S'ils avaient
même...
peur de redescendre,
de retomber, de voilà, casser l'ambiance.
C'est l'impression que j'ai eue. Et puis, c'est un concert où, malgré cette ovation qui a salué votre performance...
Oui, c'est vrai que ça avait été vraiment chaleureusement applaudi.
Voilà, il n'y a pas eu besoin de bis. Enfin, je veux dire, non. On ne peut rien ajouter.
Ah, je crois qu'après ça, on ne peut plus rien faire. Là, il faut rester là-dessus. Ça, c'est vrai. Hein? C'est des ors quand on...
oui. un peu comme on disait pour le Requiem de Mozart.
Oui.
À la fin de certaines pièces, il faut plus.
Non, c'est plus possible. Voilà. On peut plus rien faire. Là, on est en haut.
Très bien. Alors, j'espère que nous vous transmettrons cette émotion au travers de la radio. Et voici cette conclusion, la louange à l'immortalité de Jésus. Voilà, alors nous avons laissé ce silence volontairement pour bien montrer que le temps qui s'est écoulé avant que la salle réagisse et que les applaudissements fusent après la fin de ce morceau. Bravo Berthilde.
Merci.
Alors on évoquait aussi une autre pièce, paraît-il, de Messiaen que je ne connais pas, qui s'appelle Thème et Variation.
Oui, je disais, il avait déjà un petit peu... Enfin, ce n'est pas un principe, mais on retrouve déjà ça dans une œuvre pourtant de jeunesse, une des premières œuvres, s'appelle Thème et Variation de Messiaen, donc pour violon et piano. Et la dernière variation est comme ça, d'un tempo très lent. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir travaillé ça donc, avec mon professeur à Paris, Jean Fournier, qui l'avait lui-même l'avait fait avec Messiaen. Et donc, Messiaen demandait toujours au violoniste d'être toujours le au plus lent, encore plus lent, encore plus lent. Et il s'y trouvait toujours ça trop rapide, presque jusqu'à la rupture, quoi. Il voulait toujours que ce soit encore plus lent, il avait déjà. Et c'est, on retrouve là-dedans. Et c'est, mais je pense qu'il a raison, ça donne une dimension à l'œuvre assez exceptionnelle, quand même.
Voilà, alors je pense que, pareil pour la pièce violoncelle, vous me disiez, Philippe, que. Pasquier devait toujours jouer.
Ah oui, oui. Étienne Pasquier raconte toujours que quand il travaillait cette pièce avec Olivier Messiaen, il n'en pouvait plus à la fin parce que bah, presque à se fâcher, quoi, parce que c'était toujours trop vite. Et lui, il archait. C'est difficile d'archer des tenues comme ça, de ne pas avancer, des longueurs d'archer, voilà, sans retour. Enfin, il fallait pas entendre les retours d'archer. Et mais c'est épuisant parce que ça dure un moment. Hein, la pièce de violoncelle, ça dure, je crois, 8 minutes. Physiquement, honnêtement, faut le gérer, ça. Hein. Ça, on fait pas ça n'importe comment. Hein. Sinon, c'est un peu, on va pas au bout.
C'est voilà. Clair, hein. J'ai appris ce soir que Berthilde avait un archer de 2 kilomètres.
Mais elle est super soliste, alors elle a les moyens.
Hein. Très bien, bien. Merci pour cette magnifique interprétation. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la présenter. Je rappelle que nous sommes sur RCF Côte d'Azur, que nous sommes dans l'émission Les Moments Musicaux de l'Académie Clémentine et que nous évoquons aujourd'hui un concert du 25 octobre 2008 dans le cadre de l'année Messiaen. Alors en première partie, vous aviez programmé Beethoven.
Oui, alors un trio, pardon, je n'avais pas vu que c'était pour moi. Donc un trio de Beethoven qui a une particularité, c'est qu'il peut se jouer dans la formation piano, violon et violoncelle. Il peut se jouer aussi dans la formation piano, clarinette et violoncelle. Et ce soir-là, pour laisser Alain Danguin le temps de prendre son souffle pour le Messiaen, c'est Berthilde qui avait fait la partie de violon.
Voilà, alors on va écouter deux, on ne peut pas l'écouter en entier puisque le temps va nous manquer.
Ce qui est peut-être pas mal, c'est de faire l'adagio et puis le thème et variation qui suit, donc ce qui correspond au deuxième mouvement et au troisième mouvement. On va finir sur une touche super sympa.
Très très bien. Alors, l'adagio du trio pour piano, violon, violoncelle en si bémol majeur opus 11 de
Beethoven.
Alors, il y a un débat dans le studio pour savoir si c'est plus joli à la clarinette ou au violon.
Non, il n'y a pas de débat du tout, c'est évident.
Non, je pense que chacun, justement, je demandais à Alain, puisqu'on l'a interprété tous les deux, je pense qu'on l'appréhende un peu différemment. L'instrument fait que c'est un petit peu différent, puisque là, le violon, par principe, chante, la clarinette respire. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu, je me demandais s'il y avait des différences de tempi.
C'est toujours intéressant parce qu'on a le même problème avec Brahms, avec les deux sonates qui sont à la fois pour l'alto et pour la clarinette. Certains conservatoires, surtout à l'étranger, où on fait venir le professeur d'alto qui le joue à la classe de clarinette et vice versa. C'est intéressant effectivement de voir le rôle de l'archet, la façon d'appréhender la musique différemment, bien sûr. Puis là, surtout quand ce sont les compositeurs eux-mêmes qui ont choisi les instruments, hein. Il ne s'agit pas de transcription, donc c'est vrai que c'est intéressant.
Donc Philippe en arbitre.
Les deux sont très belles. Franchement, c'est pas pour reprocher.
Il est diplomate.
Oui, c'est vrai qu'en général, je suis diplomate. Mais ceci dit, franchement, je prends autant de plaisir de le faire avec la version violon ou de clarinette. Oui, c'est deux choses différentes. C'est la même œuvre, mais franchement.
Justement, une question, parce que tu as joué avec
oui,
les
bien
deux.
Sûr.
Est-ce que de la partie violoncelle, tu la joues exactement pareil selon...
Non, peut-être non. Non, non. Il y a une différence de legato, ça c'est clair. Entre instrument à cordes, on a notre chose, et avec la respiration et tout ça, il y a des choses avec clarinette qui fatalement s'installent. Que
et peut-être
pas
le mariage des timbres, mariage... on ne cherche pas toujours
aussi,
les mêmes
c'est
couleurs.
Vrai. Ah oui, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais franchement, c'est un trio qui est agréable.
Alors pour le troisième mouvement, thème et variation, il paraît qu'il y a des choses notées sur la partition.
Oui, mais alors d'abord c'est en italien et puis c'est assez long, mais c'est vrai que ça a un rapport avec boire, manger, la fête. Et
puis
alors on disait voilà, donc dans le titre que nous avons là, je parle pas bien italien, mais il semblerait que ce soit un peu un embarras ou comme si
une digestion
un peu difficile de trop bien vivre.
Écoutez, nous allons voir ce que ça donne en musique.
Thank you.
Alors le final, thème et variation du trio pour piano, violon, violoncelle de Ludwig van Beethoven. Alors Bertil, content de votre interprétation, il n'y a pas de regret?
Oui, non, mais de toute manière, j'aime pas trop me réécouter en général.
Je crois que c'est le cas pour beaucoup. Oui. Voilà, alors l'essentiel de cette émission, enfin de ces deux émissions, ont été consacrés à Messiaen et Alain Danguin nous avait promis une anecdote.
Oui. Alors je croyais échapper à ça.
Mais les auditeurs attendent.
Hein. Pour les auditeurs qui étaient la première émission, je ne peux pas faire marche arrière. Je ne suis pas sûr que... Voilà. Le problème, c'est qu'il faut avoir un public de musiciens, parce qu'il y a une tradition chez les musiciens, ce sont les dictées musicales. Et alors donc, c'était dans la première émission, si je me souviens bien, c'était autour de... Donc, des goûts pour l'ornithologie de Messiaen, donc qui s'intéressait de près aux oiseaux et qui copiait donc les chants des oiseaux. Donc bon, c'est une histoire, ça vaut ce que ça vaut. C'est une histoire où le Messiaen va dans la forêt et copie le chant des oiseaux. Il y a un petit oiseau, alors je vais faire très court, hein, ça va être à la radio, et un petit oiseau qui se pose sur son épaule et qui siffle. Alors, Messiaen prend vite comme ça, à la va-vite les notes que chante le petit oiseau. Le petit oiseau s'en va dans la forêt, fait un tour. Alors j'abrège, et il fait un deuxième tour, il se pose sur l'épaule de Messiaen, recommence, Messiaen prend à la va-vite la deuxième phrase, donc tout ça par bribes comme on fait avec une dictée musicale, et puis la dernière fois le petit oiseau vient, se pose sur l'épaule de Messiaen et lui dit « Attention Olivier, maintenant j'enchaîne ». Voilà, donc ça ne vaut que pour un public qui est amateur de musique, parce que qui a fait des dictées musicales, où là on vaut...
Alors expliquons ce que veut dire enchaîner.
Enchaîner, c'est-à-dire qu'à la fin de la dictée musicale, quand on avait fait toutes ces bribes de phrases, eh bien, on jouait toute la page de la dictée en entière pour justement...
On enchaînait tous les bouts de morceaux.
Éventuellement recorriger les fautes qu'on aurait pu faire, vérifier ce qu'on avait écrit.
Voilà, je me suis fait piéger avec cette histoire.
Très très bien, mais vous avez joué à l'oiseau dans ce concert, dans ce quatuor, c'était la clarinette qui symbolisait un peu les oiseaux.
Oui,
donc,
pas seulement, mais c'est vrai que pour en venir à Messiaen qui a fait un travail incroyable sur les oiseaux exotiques, on a joué cette année pour le centenaire de Messiaen, où là on a vraiment un catalogue d'oiseaux incroyable, avec tout les merles noirs, qui sont réellement les chants. Alors c'est difficile, ça existe avec le piano, sur une clarinette c'est plus difficile, c'est un instrument qui sont plus ou moins adapté, mais c'est un travail extraordinaire.
Très bien, eh bien écoutez, désolé de devoir vous quitter. Merci à Bertilde Dufour, merci à Alain Danguin, merci à Philippe Cochefer d'avoir si brillamment interprété ces morceaux lors du concert à Saint-Georges, d'avoir accepté de venir ici pour cette émission.
Merci à vous.
Voilà, c'est toujours un plaisir. Merci.